La chemise arrive.
Info, invité, reportage
sur Radio Saint-Afrique.
Aujourd'hui dans la chemise à rayures, Elsa, tu nous proposes deux sujets sur la gestion de l'eau vue par la FDSEA. Mais pour commencer, Jacques Commer qui revient sur la taxation des semences. Bonjour Elsa.
Salut Audrey, salut Elsa, salut tout le monde. Alors rappelez-vous, au moment où le Conseil d'État a annulé la suspension de culture OGM, le Monsanto 810, dont on parlera demain dans la chemise à rayures, en France, les députés ont adopté une proposition de loi très controversée touchant en plein cœur de l'activité agricole. Depuis, cette nouvelle loi sur l'obtention végétale a été adoptée à l'encontre des agriculteurs puisqu'elle institue une taxation pour être autorisée à semer ses propres graines. Jacques Commer est responsable de l'Organisation des producteurs de grains, qui est la section grande culture du syndicat généraliste de la coordination rurale. Alors rappelons que la coordination rurale, c'est le second syndicat en France derrière la FNSEA et second à quelques voix près avec la Confédération paysanne. Donc revenons aux semences avec Jacques Commer qui nous explique de quoi il s'agit.
Le gouvernement a institué une nouvelle taxe qu'on appelle CVO, qu'on appelle cotisation volontaire obligatoire. Bon, déjà, volontaire obligatoire, il y a une ambiguïté dans la dénomination de cette cotisation. Bon, cette cotisation, pourquoi une CVO ? Ben, une CVO, c'est parce qu'elle va vers la filière, ce qu'on appelle la filière semence, l'interprofession semence. Alors, l'interprofession semence, il faut le savoir, en France, est constituée donc des semenciers, des firmes semencières, de l'industrie semencière, de toutes les sociétés semencières, de l'ensemble des distributeurs, c'est-à-dire très souvent des coopératives, mais aussi du négoce agricole. Et les agriculteurs sont représentés dans cette interprofession par le syndicat FNSEA. Et c'est vrai que bon, il y a entre la FNSEA et l'industrie semencière une collusion assez importante, puisque donc le président de la FNSEA, qui est aussi président de Sophie Protéol, est partenaire de l'industrie semencière, partenaire à travers des sociétés de semences comme Limagrain et autres, qui sont très présentes sur notre marché français.
Actuellement, c'est Xavier Belin, un exploitant agricole céréalier, bien sûr, qui est président de la FNSEA. Et comme nous l'a expliqué Jacques Commer, M. Belin est aussi président du groupe Sophie Protéol. Alors Sophie Protéol, qu'est-ce que c'est ? C'est un groupe actionnaire de semenciers français comme Limagrain ou Auralis Semences. Leur rôle, c'est d'accompagner les entreprises de l'agro-industrie française à se développer davantage. Et les gens, de quoi ils s'occupent en clair ? De l'alimentation des hommes et des animaux. Donc Xavier Belin ne s'arrête pas là, il est aussi au niveau international président de l'Alliance européenne des oléas protéagineux et membre du Conseil de prospective européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimentation. Donc c'est pas seulement en Europe, c'est aussi international. Maintenant que vous savez qui chapeaute les semences en France et le pouvoir qu'ils ont non seulement au niveau local mais aussi international, revenons sur cette histoire de taxation avec Jacques Commer.
Donc cette cotisation volontaire obligatoire, eh bien, elle vient taxer les agriculteurs pour pouvoir utiliser leurs propres graines comme semences. Bon, il faut savoir que les agriculteurs utilisent depuis la nuit des temps leurs propres graines comme semences. On achète les semences, on les cultive pour faire par exemple du blé qui va chez le meunier ou chez le fabricant d'aliments du bétail, et on ressème une partie de ce grain. C'est ce qu'on appelle des semences fermières, des semences produites à la ferme. Alors il est bien évident que toute l'industrie semencière voit cette autoproduction de semences à la ferme d'un très mauvais œil, parce que ben, pour eux ce sont des capitaux qui ne sont pas pris, disons, sur des charges qui ne sont pas prises sur les agriculteurs. Donc jusqu'à maintenant on est passé un peu à travers, donc on a eu des CVO qui n'étaient obligatoires que sur le blé tendre, et aujourd'hui cette nouvelle loi pour laquelle nous ne sommes pas d'accord, c'est en gros la généralisation de cette CVO à des plantes, à des espèces sur lesquelles elle n'était pas appliquée.
Donc il y a 21 espèces au total qui sont concernées par cette cotisation volontaire obligatoire. Est-ce que finalement tout ça, ça ne se rapprocherait pas un petit peu du brevetage du vivant ?
Oui, tout à fait, c'est le brevetage du vivant. Bon, il faut savoir que les semenciers ont depuis toujours essayé de faire du profit. Bon, c'est vrai que quand on pense semencier, on pense toujours à des structures comme Monsanto ou Pioneer ou autres. Bon, il n'y a pas que des importantes firmes multinationales en France, mais ce sont les plus importants. Donc, eux ont toujours essayé, disons, de contraindre l'agriculteur à utiliser leurs semences. Alors, ils y sont arrivés sur certaines espèces comme le maïs, par exemple, en créant l'hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les maïs que vous utilisez pratiquement en France et aux États-Unis, un peu partout, sont des maïs hybrides. Et cet hybride-là, si vous le ressemez, ben, ça ne fonctionne pas. Vous avez une perte importante de production. Donc, en maïs, par exemple, on utilise systématiquement des semences certifiées, qu'on appelle, donc qui viennent de chez le semencier. Et en fait, les semenciers ont toujours lutté donc, dans ce sens-là. Ils ont essayé aussi de faire des blés hybrides, mais chez le blé, ça ne marche pas, parce que le blé est une plante autogame, donc sur lequel vous avez sur la même plante le parent mâle et femelle, et donc ça ne marche pas, cette hybridation. Et ils sont jamais arrivés sur le blé, jusqu'à aujourd'hui, à obliger les agriculteurs de façon technique, à réutiliser ces semences. Alors, il y a des velléités d'OGM derrière ça, mais aujourd'hui, les OGM ne sont pas autorisés en France, notamment, et donc, ils n'y arrivent pas. Alors, voilà, donc, et le problème pour nous, si vous voulez, c'est que quand on regarde la position maïs, eh bien, c'est qu'aujourd'hui, avec ce monopole qu'ont les semenciers, eh bien, les semences de maïs sur notre territoire valent deux fois plus cher que ce qu'elles valent aux États-Unis, par exemple. Donc, on est pris dans un effet où il n'y a pas de concurrence. L'agriculteur est obligé d'acheter ses semences et donc il les paye cher. Quoi. Les semenciers lui font payer très cher. Voilà.
Liberté et droit des paysans contraints donc à suivre le grand courant mondial où les plus puissants imposent leurs lois. De plus près, quelle est donc la réaction des agriculteurs face à cette nouvelle taxation obligatoire ?
Ben, les agriculteurs, bon, c'est pas, si vous voulez, la cotisation en tant que telle qui les ennuie énormément, mais ce qui est ennuyeux dans cette affaire avec les semenciers, c'est que, eh bien, on sent une fois de plus qu'on nous impose la vision des semenciers et que, en plus, bon, question pécuniaire, c'est vrai qu'aller taxer des agriculteurs qui, dans certains secteurs, notamment élevage, ont du mal à boucler leur budget, aller leur imposer une taxation supplémentaire pour des sociétés qui roulent carrosse, disons, eh bien, on le prend très mal. Les agriculteurs le prennent très mal. Et puis, c'est surtout cette vague de contraintes. Bon, dans toutes nos professions, on subit mal les contraintes. Et là, c'est vraiment une contrainte qui a été imposée par l'industrie semencière, qui est mal vécue par les agriculteurs sur le terrain, c'est clair.
Donc, quelles solutions mettez-vous en place pour résister localement ?
Ben, localement, on va être démunis. On ne sait pas encore comment vont arriver les décrets d'application, parce que aussi bien sur un blé qui est vendu à un meunier ou qui est vendu à un semoulier, on peut taxer la transaction. Mais par contre, quand il s'agit de cultures de trèfle, de cultures qui vont à des destinations fourragères, qui sont consommées par l'élevage, autoconsommées par l'élevage, on ne sait pas comment ça va s'appliquer encore. Donc, je crois que l'interprofession, le GNIS, donc le groupement d'interprofession des semences doit apporter son modèle pour taxer les agriculteurs. On va voir ce qui va en résulter.
Qu'en pense donc personnellement la coordination rurale ?
Bon, nous, ce que l'on regrette là-dedans, c'est que, en fait, la prédominance d'un syndicat qui est lui-même, disons, très proche de l'industrie semencière, nuit finalement à la profession des agriculteurs. Et c'est justement pour cette raison que nous revendiquons donc de pouvoir soutenir la production des semences à la ferme. Bon, nous verrons comment ça se passera dans le futur, mais c'est clair qu'on aimerait bien revenir sur cette réglementation.
Tout cela risque justement d'être fort compromis car le CNIS, le groupement national interprofessionnel des semences, se félicite de cette nouvelle loi qui, je cite, « sécurise le financement de la recherche et donne aux sélectionneurs les moyens de développer durablement des programmes d'amélioration des plantes ». Et comme vous le savez, cette année a été un grand record de sécheresse, plus désastreux encore qu'en 2003. Depuis 10 ans, on constate des années de moins en moins pluvieuses, notamment dans le sud du département. Bientôt, le fonds des calamités agricoles ne suffira plus à sauver les agriculteurs. C'est pourquoi de nouveaux projets voient le jour. Malgré des avis plus que divergents, pour la FFDSEA, les choses sont claires. La solution se trouve dans la construction de lacs collinéaires. Dominique Fayel, président de la FDSEA, la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, nous en dit plus sur ces retenues d'eau.
La question du stockage devient primordiale. Quand on dit politique de stockage, ce n'est pas forcément que pour l'agriculture, c'est aussi pour les autres usages. C'est pour le débit des rivières, c'est aussi pour l'eau potable. Donc nous, on inscrit une politique de l'eau pour l'agriculture dans le cadre d'une politique de l'eau plus large. Pour la partie agricole, il faut tenir compte de la réalité telle qu'elle est, de la géographie telle qu'elle est, c'est-à-dire que c'est essentiellement par le biais de lacs collinaires, c'est-à-dire des retenues qui sont faites entre deux collines et qui se rempliront l'hiver pour être utilisées ensuite pendant le printemps ou l'été. tous les agriculteurs n'ont pas forcément un site favorable pour faire une retenue collinaire. Mais partout où ce sera possible, il faudra essayer d'y parvenir.
En clair, la FDSEA pense que dans un cadre collectif, c'est-à-dire faire une retenue d'eau pour 10 ou 15 agriculteurs, il sera plus facile de trouver un site favorable. De même, si une retenue n'est utilisée que par un seul agriculteur, il pourrait être amené une gestion collective de plusieurs lacs afin d'être plus efficace et de renforcer les réserves les unes par rapport aux autres. Une démarche collective qui n'exclurait pas, bien sûr, quelques réalisations individuelles. Vous l'aurez compris, le principe est simple. Puisqu'il pleut durant l'hiver, il suffit de récupérer cette eau afin de pouvoir la réutiliser au printemps et en été. Selon Dominique Fayel, Dominique Fayel nous vante les mérites de ces lacs qui, à ses yeux, ont bien plus d'un avantage.
Autrefois, quand il faisait une période de sécheresse prolongée, eh bien, le ruisseau ne coulait plus. Maintenant qu'il y a un lac, eh bien, un débit minimum peut être réservé pour que le ruisseau continue de couler. À côté de ça, il peut y avoir d'autres usages pour la pêche ou pour les loisirs. Je pense que sur Luc notamment, qui est en zone périurbaine, il y a eu des aménagements pour les promenades et pour les loisirs qui ont été faits autour du lac. En fait, le stockage de l'eau et les retenues collinaires ne sont pas une idée si nouvelle que ça. Il y avait eu une politique assez affirmée dans les années 70-80. Puis, pour des raisons de contraintes environnementales, pour des raisons qu'on qualifie nous aussi d'assez idéologiques, l'irrigation a été mal vue. L'irrigation, le principe de l'irrigation a été rejeté parce qu'assimilé à l'agriculture intensive. Or, l'intérêt de l'irrigation, c'est pas tant de produire plus que de sécuriser les surfaces irriguées.
La FDSEA insiste donc, le principe de ces retenues d'eau n'est pas d'accroître la production, mais bien de sécuriser la production fourragère, et bien sûr de faire un petit peu de tourisme sur les berges. Petite question que l'on se pose quand même, qui donc financera la construction de ces nouveaux lacs ?
Les agriculteurs déjà en premier, ensuite il y a des partenariats, notamment avec l'Agence de l'eau, et aussi des fonds européens. Voilà. Et bien entendu, ces projets sont menés et sont conduits en tenant compte de règles extrêmement strictes qui découlent de toutes les lois, les lois sur l'eau, les différentes réglementations sur l'eau qui sont extrêmement complexes, assez lourdes. C'est pour ça que de tels projets, il est difficile de les mener tout seul. Il faut les mener de façon collective. Donc, pendant l'année 2012, là, je pense que quelques projets vont démarrer et ce sera la première fois depuis une quinzaine d'années que de nouveau des projets de retenue collinaire vont pouvoir enfin se réaliser. Donc les procédures administratives, tout l'accompagnement technique, etc. va pouvoir se rôder sur les premiers projets qui vont sortir cette année. Et on espère ensuite pouvoir amorcer un rythme plus régulier dans les années suivantes. Et c'est un projet que l'agriculture aveyronnaise peut voir réaliser sur une dizaine d'années. Dans l'absolu, dans l'idéal, allez, si on en faisait 500, 600, 700, sur tout le département, ce serait très bien, quoi. Voilà. Ce ne sera pas la solution à tout, mais parmi la panoplie de solutions qu'il faudra mettre en œuvre, celle-ci est incontournable.
Dominique Fayel, président de la Fédération des syndicats d'exploitants agricoles, se voit donc plutôt serein quant à la suite des événements. Affaire à suivre donc, puisque demain aura lieu la visite d'une exploitation agricole à Luc, dans le Nord Aveyron. Cette journée est organisée par la Chambre d'agriculture, la FDSEA et les jeunes agriculteurs. L'idée est de faire un état des lieux de la sécheresse et de présenter tous les avantages qu'auraient ces retenues d'eau à Madame la Préfète, qui se déplacera en personne pour l'occasion. Sachez qu'en 2012, plusieurs de ces lacs collinaires verront déjà le jour. Pourtant, tout le monde ne partage pas cet enthousiasme, notamment la Confédération paysanne ainsi que de nombreux autres organismes qui pensent que ces retenues d'eau accentueraient même le phénomène de sécheresse. Suspense donc. Dans une prochaine chemise à rayures, nous ne manquerons pas de recevoir les opposants à ce type de projet.